Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le thème que je veux débattre aujourd'hui, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand j'étais à Montréal pendant une nuit, le Seigneur m'apparaît et il me dit, à travers toi, je vais révéler la véritable nature du combat à l'Église. Mais je dis, avant de révéler à l'Église la véritable nature du combat, il faut que je révèle à l'Église la véritable nature de notre chef, à savoir Christ. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Christ, ne comprennent pas Christ. Alléluia. Les musulmans disent de lui que lorsqu'il était prêt à être crucifié, il a été enlevé et c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Ils disent de lui également qu'il est un prophète comme les autres prophètes. Mais je dis aux musulmans, vous ne connaissez pas Christ. Les bouddhistes vous diront que Christ fait partie des maîtres, des grands maîtres qui ont vécu sur cette terre. Ils le comparent à Krishna et à tous ces autres faux dieux qui ont marché sur la face de cette terre. Et je dis aux bouddhistes, vous ne connaissez pas Christ. Les païens ont l'impression que ce Christ que nous prêchons est un Christ qui va les empêcher de vivre dans la liberté. Ne sachant pas quelle est la vraie liberté. Laisse-moi te dire que la liberté, la vraie liberté, c'est être capable de faire ce que tu dois faire et être capable de ne pas faire ce que tu ne dois pas faire. Et non l'esclavage. Parce que beaucoup d'entre eux ne doivent pas fumer, mais ils fument. Beaucoup d'entre vous diront, je n'ai pas envie de battre ma femme, mais ils vont la battre. Beaucoup d'entre vous diront, je n'ai pas envie de boire, mais ils vont boire. Ils ne sont pas libres. Mon Christ peut te rendre libre. Mais vous savez ce que je trouve encore plus décevant, ce que je trouve encore plus malheureux, c'est que l'Église de Jésus-Christ, elle-même, ne sait pas qui est Christ. Le Christ dont nous nous réclamons n'est pas le Jésus qui a marché sur la terre il y a 2000 ans. Qu'est-ce que tu dis? Le Christ que nous prêchons et que nous annonçons n'est pas le Jésus qui a marché sur la terre il y a 2000 ans. Le Jésus qui a marché sur la terre il y a 2000 ans était un homme limité. Il était limité par sa chair. Il était limité par son corps. Il était obligé de manger. Il était obligé de marcher pour faire de longues distances. Ce Christ, ce Jésus, était limité. Il accomplissait des miracles. Il délivrait les hommes. Mais il n'était pas entré dans la plénitude de sa divinité. Il était Dieu, mais il était limité à cause de nous. Alléluia. Il y a des gens qui ont connu Jésus. Il y a des gens qui ont connu Christ. Et parmi ces personnes, on peut noter Pierre, le disciple de Jésus, qui a connu Jésus en tant qu'homme et qui a connu la dimension de Christ. Vous savez, Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais les 3 ans et demi qu'il a passé avec Jésus ne l'ont pas transformé. Pierre a fait des miracles. Il a vu Jésus faire des miracles. Pierre a prié pour les malades. Pierre a imposé les mains aux malades. Pierre a chassé les démons. Mais lorsque le moment était venu pour lui d'affirmer sa foi face à la mort, il a préféré fuir. Il a préféré mentir en disant que ce Christ-là, ce Jésus-là, lui ne connaît pas. Mais lorsque Pierre a rencontré Christ, lorsque Pierre a eu la révélation de Christ, lorsque les hommes lui ont dit, on va te crucifier, il a dit, je ne suis pas digne de mourir de la même mort que mon maître. Je suis prêt à mourir, mais je veux qu'on me crucifie la tête en bas. Allons dans le livre de Actes, chapitre 2, versets 23 à 24. Lorsque l'esprit de la révélation est venu le jour de la Pentecôte, et que Pierre a été rempli du Saint-Esprit, et que ses yeux spirituels se sont ouverts, que ses oreilles spirituelles se sont ouvertes, et qu'il a eu la révélation de celui qu'il est en train de suivre, il s'est écrié au verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, par les prodiges et par les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il répète encore, cet homme, alléluia, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La Bible dit que l'âme qui a péché doit mourir. Jésus n'a pas péché. Quand je vous dis que Jésus était limité, je ne vous ai pas dit que Jésus n'était pas Dieu. Mais le corps dans lequel il n'était pas encore mort pour sauver l'humanité. La Bible dit que la mort ne pouvait pas le retenir. Mais regardez bien, la Bible dit quoi? Que Dieu l'a ressuscité. Christ ne s'est pas ressuscité lui-même, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Prions le Seigneur pour que cette révélation puisse entrer dans ton esprit. Éternel mon Dieu, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie Dieu de gloire parce que tu nous permets d'entrer dans la révélation de ta parole. D'entrer dans la révélation de ta personne. Nous voulons te connaître Seigneur. Nous voulons te connaître, ô Jésus. Nous voulons que tu te manifestes dans notre vie. Nous voulons que tu te révèles à nous. Et que tu nous permettes d'entrer dans la véritable dimension que tu attends de tes enfants. Allons plus loin dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 36. Il dit, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Il dit, vous avez crucifié un homme qui s'appelait Jésus. Dieu a rendu témoignage de cet homme à travers les miracles et à travers les choses extraordinaires qu'il a accomplies. Mais vous avez permis que des pécheurs viennent le prendre et le tuer. Dieu l'a ressuscité. Il dit, mais je vais vous donner une nouvelle. Je vais vous faire une révélation. Alléluia. Je vais vous faire une révélation. Avec certitude, ce Jésus que vous avez tué, ce Jésus que vous avez crucifié, ce même Jésus, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est terrible, hein? Mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le Christ. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je vais vous donner l'image ou la photographie de ce Jésus-là. Allons dans Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 17. Apocalypse 1, 12 à 17. Vous connaissez tous l'histoire de Jean. La Bible dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. La Bible dit que lorsque Jésus était assis, Jean des fois venait mettre sa tête sur son épaule. Jean venait se coucher sur lui et il causa avec Jésus. Alléluia. Jean était quelqu'un qui connaissait Jésus. Jean a marché avec Jésus, il a mangé avec Jésus, il a dormi dans la même maison que Jésus, il a causé avec Jésus, ils ont bavardé ensemble. Ils connaissaient très bien Jésus. Alléluia. Pierre également connaissait très bien Jésus. Regardons maintenant dans le livre d'Apocalypse, alors que Jésus vient le voir pour lui parler. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 12? Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. » Il dit, « J'étais mort !» C'est le même qui était mort. Il dit, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour. » Des morts. Tu ne peux pas acclamer ce Christ-là. Le problème des chrétiens, c'est que jusqu'à présent, dans leur esprit, ils ont limité Christ. Ils ont limité Jésus. Ils pensent toujours Jésus qui marchait en tapette avec sa robe blanche et qui se promenait dans les rues de Jérusalem. Ils pensent toujours que leur Jésus ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Ils pensent toujours que Jésus, des fois, est fatigué. Ils ont limité Jésus dans leur esprit. Mais moi, je suis venu t'annoncer Christ. Alléluia. Cet homme glorieux qui, après sa mort, a été ressuscité par Dieu. Et Dieu l'a placé à une position d'autorité. Alléluia. Ses yeux sont remplis de feu. De sa bouche, une épée à double tranchant sort. Christ est rempli de gloire. La Bible dit que dans sa main droite, il y a 7 étoiles. Christ. Dans une autre dimension. C'est ce Christ-là dont la Bible dit qu'il habite en nous. Jean, qui avait l'habitude de mettre sa tête sur Jésus, Jean qui avait l'habitude de manger avec Jésus, de plaisanter avec Jésus, de jouer avec Jésus, il causait avec Jésus, ce même Jean-là, quand Christ lui est apparu, il est tombé comme mort. Il est tombé comme mort. Je vais vous montrer une petite différence. Vous vous rappelez du passage dans la Bible qui parle des disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez qu'à un moment, ils étaient en train de marcher et ils se lamentaient. Oh vraiment, ce Jésus-là, il était venu, il nous a parlé du royaume de Dieu et puis les gens sont venus le tuer. Ils étaient tristes, ils étaient malheureux. La Bible dit que Jésus est venu à côté d'eux. Et il faisait chemin avec lui. Et il continuait à parler. Jésus leur demande, mais c'est qui vous pleurez? Non, on a notre sauveur là. Il est venu et puis les gens l'ont tué. Jésus dit, mais ah, il était à côté d'eux mais ils ne le voyaient pas. Ils ne le reconnaissaient pas. Jésus était devenu déjà Christ. Il était une personne différente. Il avait subi une transformation. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où ils devaient manger, Jésus a compassion d'eux, il coupe son pain, il leur donne. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que c'était Christ. Alléluia! Pierre, il était en train de pêcher sur son bateau. Christ arrive au bord de l'eau, il voit Pierre en train de pêcher. Il le regarde, il regarde Jésus. Tout le monde le regarde, mais ils ne savent pas que c'est Christ qui est là. Parce qu'il avait été transformé. Il dit, Pierre, ta pêche a été bonne? Pierre qui répond, non, ça n'a pas été bon. Il dit, jette ton filet à droite. Pierre jette le filet à droite, il ramasse plein de poissons. Il saute de la barque et il reconnaît que c'est Christ qui est venu le voir. Avant sa crucifixion, est-ce que vous avez entendu parler que Jésus a traversé un mur? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu que Jésus a disparu s'il allait apparaître là-bas? Vous avez vu ça dans la Bible? Mais après sa crucifixion, lorsqu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il faisait? Il apparaît à un endroit, il discute avec les gens, il disparaît, il apparaît dans un autre endroit. Les gens sont dans une salle fermée, il vient, il entre dans la salle. Alléluia. Il était entré dans une autre dimension, mon ami. Je veux que tu saches que le Seigneur que tu sais, il faut arrêter de le limiter dans ton esprit. Parce qu'il a déjà dépassé les barrières de la limitation. Vous savez, on ne connaît pas Jésus dans la chair. On le connaît dans l'esprit. Alléluia. Par la révélation. Quand vous prenez l'exemple de Paul, est-ce que Paul a connu une fois Jésus? Paul n'a jamais connu Jésus. Vous avez vu une fois, on a dit Paul rencontra Jésus ou bien Jésus a appelé Paul? Non. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais causé avec Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Mais vous savez qui Paul connaissait? Paul connaissait Christ. Ça fait de lui le plus grand des apôtres. Tous ceux qui ont marché avec Jésus là, ils n'ont pas eu la révélation de Christ au même niveau que Paul. Allons donc dans Éphésiens 3, chapitre 3. Éphésiens 3, chapitre 3. C'est Paul qui nous enseigne là maintenant. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il appelle ça mystère. Il dit, c'est par révélation. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui est venu lui expliquer. C'est pas quelqu'un qui est venu lui montrer. Paul dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Christ est un mystère. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Regardez au verset 8. Il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Il faut souligner, richesse incompréhensible. Il parle des richesses incompréhensibles de Christ. Il dit, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Vous savez, je vais vous faire une révélation qui risque de vous choquer, de vous troubler, mais de vous permettre de comprendre un peu la puissance de votre Dieu et le mystère de Christ. La Bible dit quoi? Que ce mystère a été caché de toute éternité en Dieu. Le mystère de Christ a été caché. Vous savez, lorsque Satan faisait ses simagries devant Dieu, Christ était là. Christ que nous servons, il connaît Satan. Mais devinez quoi? Satan ne le connaît pas. La Bible dit qu'il était caché en Dieu. Et la Bible dit de toute éternité. Donc de
depuis l'éternité, le commencement de l'éternité, jusqu'à ce que Dieu décide de révéler le mystère de Christ. Christ était caché en Dieu. C'est ainsi qu'il a pu dire, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je voyais Satan tomber. Mais quand Satan a vu Jésus, il a cru que c'était un petit garçon avec qui il allait venir s'amuser dans le désert. Et lorsqu'il est venu se frotter à lui, il a brûlé ses ailes. Si Satan avait la connaissance de Christ, jamais il n'allait crucifier Jésus. Si Satan était au courant du mystère de Christ, jamais il n'allait crucifier Jésus. Parce que la crucifixion de Jésus a permis à ce Jésus homme-là de devenir Christ. Alléluia. Vous savez, quand on parle du diable, moi ça m'énerve. Parce qu'il ne mérite même pas qu'on s'attarde sur son cas. Imaginez un bébé comme ça, que Dieu a créé. La Bible dit que Dieu a tout créé, parce qu'on précise ici qu'il a créé toutes choses. Dieu a tout créé. Dieu a caché Christ en lui. Il n'a pas créé Christ. Christ était là. Au commencement était la parole. La parole était, et la parole était, et Christ était caché en Dieu. Donc Satan, lui, connaissait Dieu seulement. Mais la nuit, quand Satan dort, Dieu et Christ sont en train de discuter. On dit, mais le gars là, quand est-ce qu'il va commencer à déconner? On dit, non, c'est bientôt. Il dit, mais vraiment, il faut qu'on crée un plan de salut pour sauver l'humanité, sauver ceux qui sont fidèles. Il dit, il n'y a pas de problème. Très bientôt, il va se dévoiler. Satan n'a pas surpris Dieu. Satan ne peut pas surprendre Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Il y a des choses que Dieu sait, que Satan ne sait pas. Vous savez, il faut faire attention, hein. Quand tu veux discuter avec quelqu'un qui est plus expérimenté que toi. Une fois, il y a un jeune lutteur qui a pour père un grand lutteur. Son père, vraiment, il est trop fort. C'est le plus grand lutteur de leur village. Personne n'a pu le battre. Il est de renommée même internationale. Une fois, son fils est venu vers lui pour dire, vraiment, papa, je sais que tu es un grand lutteur. Il n'y a personne qui a réussi à te battre. Comment est-ce que toi tu fais même? Son père lui dit, mon petit, c'est facile. Quand le gars s'apprête à te soulever, tu fais tes reins comme ça. Et puis tu dis, Douda. Et puis tu le soulèves. Le petit dit, ah bon? Ah mais donc c'est ça. Son père dit, non, c'est tout, c'est ça. Il dit, d'accord. Il va et laisser compte. Un gars, ça marche. Contre un autre, ça marche. Il devient le champion des lutteurs. Maintenant, un jour, alors que son père est assis dans l'assemblée, tranquille, il dit, aujourd'hui, j'appelle au défi mon père, qui est le plus grand des lutteurs de cette terre-là. Je vais le frapper aujourd'hui. Et comment? Je vais le terrasser. Je vais lui montrer qui est qui. C'est moi le grand, c'est moi le fort. Celui-là, ce vieux-là, il est vieux maintenant, je vais le frapper. Son père dit, c'est pas grave. On dit, non, tu es vieux. Il dit, non, laissez-le. C'est mon petit. Tu as le soulevé, il se casse et puis il dit, Douda. Son père ajoute, dit. Et puis le soulève, maintenant, il le terrasse. Alléluia. Il dit, mais comment tu as fait pour me battre? Il dit, oh, tu es un petit. Secret. Je savais qu'un jour, tu allais te retourner contre moi. Donc, je t'ai dit une partie. Il y en a beaucoup encore. Mais je réserve ça. Quand je serai prêt à mourir, c'est là que je vais te dire. Parce que sinon, tu vas chercher à me honnir. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Dieu est éternel. Et tant qu'il est là, Satan ne connaît pas tous les plans de Dieu, non. Il n'est pas au courant. Le jour où il commence, on le terrasse en même temps. Alléluia. Vous savez pourquoi je prêche ce message aujourd'hui? On dit, Église de Jésus, voici ton heure. C'est comme si l'heure était arrivée maintenant, aujourd'hui là, pour l'église de Jésus. Mon ami, ton heure a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps que ça a sonné. C'est toi qui ne sais pas. Alléluia. Le jour même où tu as donné ta vie à Jésus, là, ton heure avait déjà commencé. Mais tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, tu vas savoir. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tu vas savoir. On m'a raconté une histoire qui m'a fait vraiment beaucoup de peine. Parce que c'était l'histoire de l'église de nos jours. Ça raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Yat. Cet homme a vécu au Texas. Il avait des hectares et des hectares de terre. Mais sa terre n'était pas trop bonne. Ça ne produisait pas assez de blé et assez d'herbe. Il élevait des moutons, des bœufs. Mais apparemment, la terre n'était pas assez bonne pour pouvoir donner assez de nourriture à ses moutons, à ses bœufs. Donc ça fait que les bœufs mouraient, les moutons mouraient, le lait n'était pas bon. Et Yat vivait dans la misère, dans la pauvreté. Il était malheureux. Yat a vécu comme ça pendant 45 ans de sa vie. Depuis l'âge où on lui a légué cette ferme-là, jusqu'à l'âge de 65 ans. Un jour, les pétroliers sont arrivés par là. Ils ont dit, Monsieur Yat, on aimerait bien inspecter un peu vos terres là, parce que ça présente des signes comme s'il y avait un peu de pétrole ici. Il a dit, ah, peut-être ils vont me donner un peu d'argent. Donc il n'y a pas de problème, allez-y, regardez. Les gars sont allés, ils ont commencé à fourrer des trous. Dès qu'ils ont fait le premier trou, du pétrole en même temps a giclé de sa terre. Il dit, ah, deuxième trou, pétrole encore qui gicle. De... s'est rendu compte que la terre qu'il avait était la terre la plus prospère du Texas. Parce que c'était rempli et rempli de nappes de pétrole. Il a attrapé sa tête. Il a commencé à pleurer. Vous savez pourquoi il pleurait? Parce qu'il avait passé 45 années dans la misère et dans la pauvreté. Et qu'il était déjà vieux. Et ce n'est que maintenant qu'il se rendait compte qu'il marchait sur des puits de pétrole. Ce sont ses enfants qui en ont profité. Et jusqu'à présent, ils en profitent très bien. Mais tu vas dire, oh, quel malheur! Mais pour la plupart du chrétien, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez Christ. Ce Christ dont j'ai parlé, qui habite en vous. Et vous êtes en train de vivre des problèmes, des difficultés, dans la misère, dans la souffrance. Ce que j'appelle les chrétiens de surface. Vous savez, des chrétiens qui sont à la recherche des petites bénédictions. Je dis bien des petites bénédictions. Parce que au lieu d'attraper la bénédiction qui est Christ, ils cherchent à ramasser les bénédictions. Seigneur, donne-moi Marie. Seigneur, donne-moi, faut me donner l'argent. Il y a des gens même qui prient pour avoir un pain brochette. Mon ami, tu n'as pas besoin de prier pour des conneries comme ça, excuse-moi. Alléluia. Attrape la bénédiction. Au lieu de chercher les bénédictions. Yat était en train de s'occuper de la surface, de ce que ses yeux voyaient. Mais ce que ses yeux ne voyaient pas était encore plus grand que ce que ses yeux voyaient. S'il avait un jour eu l'idée de creuser un peu pour chercher à saisir ce qui était sous lui, il allait trouver ses puits de pétrole. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. » C'est ça, non? Hein? Non, on dit si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Vous êtes sûr? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Beaucoup de personnes ont été en Jésus pendant longtemps. Mon ami, il est temps d'entrer en Christ.
Sache que le Dieu que tu sers, c'est pas, il n'est pas, c'est plus le Jésus qui se promenait en Galilée, à Jérusalem et tout ça là. Non, c'est le Christ. Alléluia. C'est le Christ. Vous savez pourquoi est-ce que les Israéliens n'ont pas reconnu Jésus et puis sont allés le tuer? Eux n'attendaient pas Jésus. Vous savez qu'ils attendaient? Ils attendaient Christ. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais c'est quoi ça là? On dit non, c'est Jésus, votre sauveur, votre roi. Quoi? Lui là, notre roi. Un menuisier? Non. Notre Bible nous dit que on attend Christ. Et quand il va venir dans la puissance, dans la gloire. Mais la Bible dit qu'ils avaient oublié que le Christ devait venir d'abord, qu'il devait mourir. Alléluia. Avant de devenir Christ, les Israéliens n'attendaient pas Jésus. Si Dieu leur avait dit que c'est Jésus, ils avaient dit, mais pourquoi tu as nous envoyé un gars, vraiment, qui allait venir parler beaucoup? Nous, on veut quelqu'un qui va venir finir avec nos ennemis. Alléluia. Un gars qui va venir chasser les Romains. Parce que vous savez que Christ va se manifester bientôt. Très bientôt. La Bible parle d'un événement qui s'appelle la guerre d'Armageddon. Et la Bible dit que dans cette guerre-là, les nations du monde entier vont se réunir pour attaquer Jérusalem. Alléluia. Et ils vont se rencontrer dans une vallée qu'on appelle Armageddon. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là que Jésus va descendre. Mais ça sera grave pour les nations qui auront osé attaquer Israël. Je vous dis que cette guerre est en train de se préparer. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que nous sommes déjà à la moitié du livre d'Apocalypse. Et que bientôt on va terminer Apocalypse. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Moi, ça m'étonne. Ça me surprend. Quand on dit qu'un tiers des eaux sera pollué, qu'est-ce que vous faites des tanks, des navires qui versent leur pétrole dans les eaux? Les eaux sont polluées. Les eaux sont amères. Les eaux sont contaminées. La Bible parle de la mortalité. Il n'y a jamais eu un taux de mortalité aussi élevé qu'actuellement. Des gens qui meurent comme ça, qui se lèvent, ils vont se coucher, ils meurent. La Bible parle des sauterelles. Avec une tête, le virus du sida qui est en train de décimer des nations, des peuples entiers. Les plaies ont déjà commencé à frapper le monde. Mais les chrétiens ne sont pas au courant. Et vraiment, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Allons dans Colossiens chapitre 3, verset 25. Plutôt chapitre 1, à partir de verset 25. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, il répète encore, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Ce mystère a été caché de tout temps et de tout âge. Et la Bible dit qu'il le révèle maintenant à ses saints. Alléluia. Il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Il appelle ça quoi? Il y a glorieux. Alléluia. Richesse. Alléluia. Et mystère parmi les païens. À savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Allons au chapitre 2, verset 3. Il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Donc, il y a quoi? Richesse. Il y a quoi? Glorieuse. Il y a quoi? Trésor. Alléluia. Allons, verset 9. Car en lui, j'ai peur de lire le reste même. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Jésus.
Moi, quand j'entends ça, je crie alléluia, je saute, j'applaudis, je jubile.
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Est-ce que tu as saisi la révélation? Attendez, non. Pas d'alléluia, pas de tout d'abord. Vous n'avez pas saisi la révélation.
Voilà la plénitude de la divinité. Plénitude, on n'a pas dit un peu. La plénitude de la divinité. Alléluia. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Plus tout ce qui concerne la divinité, la plénitude, voilà ça. Alléluia.
Et voilà Christ. Alléluia. On dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité vient où? Ça vient en Christ. Et puis, ça habite où ça? En lui.
Alléluia. Et la Bible dit maintenant, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Vous allez chercher loin, pourquoi?
Vous allez chercher au loin là-bas, pourquoi? Christ est en vous, non? Christ est en vous, n'est-ce pas? Et en Christ, il y a quoi? La plénitude de la divinité. Dieu habite en vous. La plénitude de la divinité est en vous. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Et on dit bon, mais pourquoi même? D'abord on dit Christ en vous. C'est la première révélation qu'on vient d'avoir. Christ en vous, c'est trop terrible. Alléluia. Christ en toi. Non. Moi j'ai mis au moins une semaine à réfléchir dessus. Je me regarde dans le miroir. J'ai dit, Christ est en moi. Non. Christ en moi. Mais je ne suis pas n'importe qui. Mon ami, je ne suis pas n'importe qui. Celui qui t'a créé là, il habite en moi. Celui qui a créé la situation, il habite en moi. La Bible dit qu'il a tout créé. Il est en moi. La plénitude de la divinité habite en moi. C'est une révélation qui va te faire décoller. Alléluia. C'est une révélation qui va briser les portes devant toi. C'est une révélation qui va abattre les forteresses, qui va déplacer les montagnes. Alléluia. Quand tu vas réaliser qui tu es, la Bible dit que tu es un mystère. Tu es un mystère. Et pourquoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, souvent quand on parle de gloire, les gens croient que la gloire c'est spirituel seulement. La gloire n'est pas spirituelle seulement. La gloire, elle est vue. On voit la gloire avec les yeux. Si quelqu'un dit, il y a la gloire de Dieu sur sa vie là, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h, aller lui demander, mais bon, mon frère, explique-moi un peu comment cette gloire-là se manifeste. La gloire elle-même va te montrer qu'elle est là. Alléluia. Quand tu vois la personne avancer même déjà, tu vois la gloire de Dieu qui est derrière lui. Alléluia. Alors dans Ésaïe 60, versets 1 à 5, on va parler un peu de la gloire de Dieu. Ésaïe 60, versets 1 à 5. Tu vois, il dit, lorsque tu as cette révélation de Christ là, il va te donner des conseils maintenant. Il dit, mon ami, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. La gloire de Dieu apparaît. Dieu dit, lève-toi, tu vas briller tout de suite. Bientôt là, tu vas briller. Alléluia. Il dit, lève-toi, tu vas briller. La gloire apparaît. La gloire apparaît. Il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Tu tressaillis alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi et quand les trésors des nations viendront à toi. Quand la gloire de Dieu apparaît sur ta vie, les richesses de la mer se tournent vers toi. Alléluia. On trouve quoi dans la mer? Toutes les richesses de la mer se tournent vers toi. Et la Bible dit quoi? Que les trésors des nations viennent à toi. La gloire de Dieu, elle est palpable, elle est manifeste. Lorsque la gloire de Dieu apparaît sur ta vie, les richesses viennent vers toi. Les trésors des nations viennent vers toi. Vous savez, l'heure de la Côte d'Ivoire a sonné. L'heure de ce pays-là a sonné. L'heure de cette nation a sonné. Les richesses de la mer vont venir vers la Côte d'Ivoire. Les trésors des nations vont venir vers la Côte d'Ivoire. Ça fait partie des plans de Dieu. Ça fait partie des plans de Dieu. Il avait prévu ça de toute éternité. Il avait caché ça à Satan. Maintenant qu'il s'apprête à révéler, Satan déjà commence à paniquer. Ah non, il faut créer la guerre là-bas. Ah non, il faut qu'on fasse des histoires là-bas. Ah non, il faut qu'on fasse des tribalismes. Mon ami, il faut bien m'écouter. Écoute-moi bien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Joseph a dit un jour, dans le livre de Genèse, chapitre 45, verset 13, il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. La gloire. Il dit, quand ses frères sont venus voir Joseph en Égypte, ils ont vu sa gloire. Alléluia. Ils ne sont pas venus le trouver en prison. S'il avait trouvé en prison et qu'il disait, allez raconter à mon père toute ma gloire et faites-le venir, son père lui dit, mais vous êtes fou. On dit, Joseph en prison, nous on va aller en prison faire quoi? Mais quand ses frères sont venus, ils ont vu sa maison. Ils ont dit, hé? Ils ont vu ses chars. Ils ont dit, hé? Ils ont vu les richesses, la nourriture, ses bœufs, ses terres. Ils ont dit, non, on doit venir habiter ici. Alléluia. Et Pierre a dit, allez raconter toute ma gloire. Mon ami, quand la gloire de Dieu se lève sur toi, ça va se voir. Allons dans Agée, chapitre 2, verset 9. Je sais pourquoi je traîne dessus. On doit ouvrir les yeux de certaines personnes. Parce que Dieu veut que sa gloire apparaisse sur leur vie, mais eux-mêmes ils refusent. Quand ils voient un homme de Dieu qui marche dans la gloire de Dieu, il commence à dire, mais lui là, il est mauvais, lui là, il est comme ça, c'est comme ça, ils font, ce sont des mauvais. Non, mon ami. C'est pas, on n'est pas mauvais. Si toi tu veux rester dans la médiocrité, si toi tu veux rester à la surface, nous, on a trouvé le puits de pétrole. Alléluia. On a trouvé Christ. Allons dans Agée 2, à partir du verset 5. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Si vous vous rappelez de l'alliance de Dieu, Dieu te dit, si tu me suis, tu n'auras ni faim, tu n'auras pas soif. Alléluia. Je vais te bénir. Il dit, quand vous sortirez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Quelle maison? Quelle maison?
la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Quand il dit cette maison, on dit la corporellement la plénitude de la divinité habite en Christ. Et Christ habite en toi. Donc tu es la maison de qui? Quelle est cette maison que Dieu va attirer les trésors? C'est toi. Il dit l'argent, c'est après qu'il dit l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Vous savez, la première maison, vous savez c'est qui? C'est le Salomon et David. Donc Dieu dit que dans l'église de maintenant, là, il y aura des gens qui sont plus grands que Salomon et qui seront plus grands que David. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux que la gloire de Dieu resplendisse sur ta vie? Tu le veux vraiment? Allons dans Colossiens 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Tous les trésors. C'est pas un trésor. C'est pas deux trésors. La Bible dit tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ont été cachés en Christ. Et Christ est en toi. Dis Christ est en moi. Maintenant, touche ton voisin, dis Christ est en toi. Ben, il n'était pas au courant. Faut lui dire encore, Christ est en toi. Je vais te demander de te lever, s'il te plaît. Si tu veux recevoir la gloire, tu dois recevoir Christ. Alléluia. Je sais qu'un jour, tu t'es avancé pour dire, je vais donner ma vie à Jésus. C'est bien. C'est très bien. Aujourd'hui, je t'appelle à recevoir Christ dans ta vie. Alléluia. Qui veut recevoir Christ? Alléluia. Vous ne voulez plus cultiver la surface. Vous ne voulez plus chercher les petites bénédictions. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La bénédiction même, c'est ça que vous voulez. Alléluia. Vous pouvez vous acclamer, vous êtes merveilleux. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas faire cette prière avec moi. Éternel mon Dieu, je prends conscience aujourd'hui de ta présence en moi. Je sais que corporellement tu habites en Christ et que Christ habite en moi. Pardonne-moi mes échecs car je n'ai pas le droit d'échouer. Pardonne-moi de m'être laissé distrait en cherchant les petites bénédictions
lieu de chercher la bénédiction, permet que ce Christ qui est en moi puisse se manifester et que ta gloire soit vue sur ma vie, dans ma famille, sur mes biens. Au nom de Jésus. Garde les mains levées. Tu peux les baisser légèrement. Si elles sont trop hautes, tu as mal. Tu peux les baisser légèrement. Mais tu gardes tes deux mains levées. Et tu restes dans la présence de Dieu. Christ. Christ. Qu'est-ce que je peux dire à part ce mot glorieux, ce nom glorieux? Christ! Appelle-le! Christ! Christ! Christ!
Le ministère du prophète est souvent accompagné de signes, de miracles et de prodiges. Attendez-vous donc à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Si cette œuvre vous a édifié et que vous voulez avoir plus d'informations concernant le ministère du prophète J.M. Kakou, contactez-nous par téléphone au 225 07 06 31 46, par courrier au 06 BP 673, Abidjan 06, ou par email à jmkakou@hotmail.com. Que Dieu vous bénisse.